Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Des flingues, des pédophiles, des orphelins, une vieille histoire d'amour et un go-fast. Voilà le sommaire de Cinérama. Bonjour Marine.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Et le sujet c'est aussi la grippe, hein, puisqu'on a perdu un membre de l'équipe qu'on retrouvera la semaine prochaine. Alors de quoi allons-nous parler ?
Alors moi je vais vous parler d'un western, encore un, décidément c'est à la mode, qui sort cette semaine avec Natalie Portman, pardon, qui s'appelle Jane Got a Gun. Je vais également vous parler d'un très bon film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Les Chevaliers Blancs de Joachim Lafosse. Et puis je vais faire un petit tour d'horizon et bien des films les plus attendus de 2016.
Eh bien moi je vous parlerai de deux films qui sortent un 27 janvier, c'est 45 ans avec Charlotte Rampling et puis Tom Courtenay, Charlotte Rampling qui va aller aux Oscars avec ce film, hein, pour le prix d'interprétation. Et puis un autre film qui est aussi nommé pour ses Oscars, c'est Spotlight de Tom McCarthy. Et puis aussi un film français, Le Convoi, celui-ci il est déjà sorti, déjà sur les écrans, c'est Cinérama.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Film au tournage apocalyptique, Jane Got a Gun, que l'on peut traduire par Jeanne a un flingue, sort enfin cette semaine sur les écrans français. Alors le tournage fut des plus mouvementés, la réalisatrice Lynn Ramsey ayant abandonné le tournage, ce qui a entraîné le départ du comédien principal Jude Law, puis d'autres départs tels que celui de Michael Fassbender. Après un jeu de chaises musicales entre les différents acteurs, de multiples remaniements du scénario et même des tempêtes de sable, hein, c'est-à-dire si le tournage était maudit, le film a finalement pu être achevé. Mais les attentats de Paris ont repoussé sa sortie sans qu'on comprenne très bien pourquoi d'ailleurs, parce qu'il n'y a aucun rapport. Ce qui explique que le film, produit entre autres par Natalie Portman, qui joue également le premier rôle, ne sorte qu'aujourd'hui. Alors l'histoire est de facture assez classique, hein. Une jeune femme mariée à un célèbre bandit se retrouve contrainte de défendre son ranch chez sa famille lorsque ce dernier se met à dos le terrible clan Bishop. Elle n'a alors d'autre choix que de ressortir ses pistolets et d'aller demander de l'aide à son ancien amour.
Vous allez fouiller toute cette vallée jusqu'à ce que ce chien galeux sorte de sa cachette.
Si Bishop veut ta peau, c'est pas un tueur qu'il te faut. C'est tout un régiment. Tu ferais bien de rentrer chez toi pour voir ça avec ton mari.
Il est mal en point.
Il vaut pas le coup de risquer ta vie, Jane.
Ma vie, je décide seule de ce qu'elle vaut. Toi, t'as plus rien à dire là-dessus.
Mais de combien d'hommes on parle ?
Ils étaient une bonne dizaine à l'époque.
Moins toi.
C'est vraiment odieux.
Peut-être, mais je risque ma vie pour toi et ton salaud de mari.
Tu sais rien de lui, tu devrais pas dire ça.
Si, je sais que c'est un criminel.
Il vaut 2 000 $. Je suis prêt à doubler cette somme si vous réussissez à ramener Hammond d'ici.
Dis-moi, où est ma fille ?
Alors, est-ce que ça valait le coup d'attendre ? Bon bah non, pas trop en fait. Le concept de western féministe, enfin modérément hein, évidemment, semblait intéressant sur le papier. Le résultat est quand même nettement moins rock'n'roll. La structure évoque les rape and revenge, ce sous-genre du cinéma d'exploitation dans lequel, comme son nom l'indique, une femme se venge de ses violeurs en se transformant en machine à tuer. La volonté des scénaristes ici était initialement de moderniser le film en lui donnant un ton soi-disant post-rock, je cite. Au final, c'est un western très classique, hein, ce qui aurait pu être vu comme une sorte d'hommage assez intéressant si l'ensemble n'avait pas manqué de corps à ce point. On bascule à l'aide de fondus enchaînés assez ringards entre le présent et les flashbacks autour du passé de Jane. Presque toutes les scènes sont tournées au coucher du soleil. Visiblement, avant, il ne se passe rien. Alors c'est peut-être aussi pour ça que le tournage a pris 2 fois plus de temps que prévu, hein. Et on sent clairement, à travers les quelques scènes d'action, que le budget n'était pas à la hauteur. Le montage laisse lui aussi à désirer. Bref, les aléas du tournage ont sévèrement endommagé le résultat final. Les comédiens sont quand même tous excellents, hein, en particulier Ewan McGregor, qui est méconnaissable. Mais on reste sur notre faim, tant le film peine à les mettre en valeur. Natalie Portman, qui produit donc aussi le film, est de tous les plans, évidemment, ce qui n'est pas du tout désagréable. On la sent très impliquée, mais ça ne suffit pas à élever le niveau général du film. Au final, ce côté un peu bricolé, ce manque d'identité visuelle, bah lui donne un aspect inabouti et ça le place au même niveau qu'un téléfilm américain du dimanche après-midi sur M6. Donc c'est pas un AV, mais c'est vraiment pas un grand film. Et c'est vrai qu'après 3 ans d'attente, c'est forcément un peu décevant.
Voilà, donc si on veut un bon western, on va se tourner du côté du western plutôt spaghetti de Tarantino. Hein.
Voilà, ou de The Revenant, dont je vous parlerai tout à l'heure.
Eh oui. En tout cas, ce film, Jane Got a Gun, sort le 27 janvier.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Et voilà encore un nominé au prochain Oscar que l'on découvre en France à quelques jours de la cérémonie. Spotlight a été annoncé comme le fils cinématographique des hommes du président d'Alan J. Pakula ou Dustin Hoffman. Et Robert Redford incarne des journalistes d'investigation dont l'enquête va mener à l'affaire du Watergate. Sauf qu'ici, nous ne sommes pas dans les hautes sphères du pouvoir politique, mais dans les sphères spirituelles aux prises avec l'Église catholique, accusé d'avoir pendant de longues années couvert des prêtres pédophiles aux États-Unis et plus particulièrement dans la région de Boston. Cette enquête journalistique, qui a duré 12 mois, a été récompensée par le prix Pulitzer. Voilà, donc ça c'est adapté d'une histoire vraie, on en est sûr. Alors, aux commandes de ce film Enquête, Tom McCarthy, acteur et réalisateur du très réussi The Visitor, et pour servir cette reconstitution, il y a un casting intéressant, Michael Keaton, en chef de troupe de la cellule Spotlight, dont le boulot au Boston Club est l'investigation. Et puis, il y a ses équipiers avec Mark Ruffalo, Rachel McAdams et Brian Darcy James, plus quelques autres qu'on a déjà vus dans le monde de la série. Alors, si le film débute dans les années 70, là où les premières plaintes semblent avoir été recensées, et précisément en 76, hein, l'année de l'affaire du Watergate, eh bien, l'histoire ensuite se déroule dans les années 2000. Le projet de Dom McCarthy n'est pas de montrer la souffrance ou si peu, hein, mais de dévoiler les mécanismes d'une enquête et ce qu'elle dévoile soit un système. On aperçoit les réticences chez certains journalistes, on voit les pressions exercées par l'Église et les puissants citoyens de la ville, et puis on voit également ceux qui se battent pour que la vérité existe sans relâcher leurs efforts. Alors, dans cette famille de combattants, on trouve les membres d'une association ou un avocat débordé qui se tue à la tâche. L'homme de loi sait bien que l'Église se bat à l'échelle des siècles, ça c'est pour citer le film, et qu'une demande de lever, de sceller sur des pièces d'instruction, n'est finalement que poussière. Hein. Ça va être très très dur d'obtenir toutes ces pièces de justice. La reconstitution est méticuleuse et les acteurs se sont, semble-t-il, amusés à approcher leur modèle. Keaton se serait même installé quelque temps dans le même quartier que le rédacteur en chef du Boston Globe qui l'incarne. Ce qui montre quand même qu'ils sont un peu flippants, hein, ces acteurs américains. C'est un peu surprenant, paraît-il, pour le rédacteur en chef, de s'apercevoir que Keaton avait pris finalement assez vite ses traits. Donc Spotlight est sans esbrouf, il montre bien les limites de l'exercice du journalisme d'investigation, comment il est conditionné à l'intérieur d'un grand journal. Parce que là, le directeur de publication est juif, donc il y a eu un rachat du journal par le Times. Donc c'est plus simple finalement pour cet homme-là de dire on va essayer de déstabiliser l'archevêque ou le cardinal, je ne sais plus comment on s'appelle. Voilà. Et on lui reproche effectivement, on dit si on s'attaque à l'Église, c'est parce que ce monsieur est juif. Enfin voilà. Bon, c'était plus simple en tout cas dans ce contexte-là de s'attaquer à l'Église. Il y a les barrages de l'information qu'on voit très bien. Il y a le travail sur les sources, il y a le travail sur les preuves, le recoupement d'informations et puis les leviers à exercer pour finalement prouver ce qu'on avance. Tout cela est documenté et sans être barbant. Et côté reconstitution, on a le droit à une image et un décor qui fleure bon les années 2000. Donc bonjour les téléphones portables à clapet et les tubes cathodiques pour les ordinateurs. Mais bon, ça c'est pour la forme et finalement ça passe très très bien. Spotlight est donc un film exemplaire avec un souci de précision et on ressort avec un questionnement sur l'Église catholique qui pourrait donner quand même le tournis. Il y a un personnage, alors c'est très intéressant ce personnage, c'est un personnage qu'on ne voit jamais, c'est simplement des conversations téléphoniques qu'il a avec un des journalistes. Et c'est quelqu'un qui est un ex-prêtre qui a suivi pendant 30 ans les affaires de prêtres pédophiles et qui arrive à déterminer, carrément à l'individu près, combien il peut y avoir de prêtres pédophiles à Boston. Voilà, parce qu'il a fait une espèce de démarche scientifique ou démarche médicale en disant « mais de toute façon, il y a 50% de prêtres qui ne sont pas abstinents et il y a 6% de ces prêtres qui passent à l'acte ». Voilà. À partir de ce modèle-là, il a dit « mais à Boston, forcément, sur les 1000 prêtres, il y en a à peu près 70-90 qui sont pédophiles ». Voilà. C'est très intéressant, très bien documenté. Spotlight, ça sort le 27 janvier.
Un prêtre de Boston a abusé d'enfants dans 6 paroisses différentes ces 30 dernières années. Les autorités de l'église l'ont appris et n'ont rien fait. On n'a jamais mobilisé de ressources d'investigation à long terme sur cette affaire.
Non, jamais.
Et c'est le genre de choses que votre équipe ferait ?
Spotlight ? L'église jettera toutes ses forces dans la bataille.
J'aurais besoin d'informations complémentaires.
Je ne veux aucune trace de cet entretien. Pas de notes, rien.
D'après nos infos, vous avez négocié plusieurs affaires avec l'église.
Je suis tenu au secret.
Pour un petit garçon pauvre qui grandit à Boston, quand un prêtre fait attention à vous, c'est pas rien. C'est difficile de dire non à Dieu.
Ils tenteront de faire taire tous ceux qui parlent.
Laissez-moi tranquille, nom de Dieu!
6% passe à l'acte.
6%, ça fait 90 prêtres.
Si on avait autant de ces enfoirés, vous pensez bien que ça se saurait.
Peut-être que ça se sait. Tu vas me donner les noms des prêtres et ceux de leurs victimes. On a le choix entre deux sujets. Un sur la perversité du clergé, un autre sur une bande d'avocats qui transforme des viols sur mineurs en un juteux fonds de commerce. Lequel de ces deux papiers tu veux qu'on sorte? Parce qu'on en sortira.
Voilà, après les pédophiles prêtres américains, les orphelins.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
En 2007, les membres de l'association humanitaire L'Arche de Zoé étaient arrêtés au moment de quitter le Tchad, avec des dizaines d'enfants qu'ils comptaient expatrier de force afin de les faire adopter en France. Les Chevaliers Blancs retracent avec une rigueur documentaire les faits qui ont précédé cette arrestation. Lorsque Jacques Arnaud, interprété ici par Vincent Lindon, arrive en Afrique avec sa femme et une équipe de bénévoles armés de bonnes intentions, les problèmes commencent rapidement. Décidé à demander aux chefs des villages avoisinants de leur amener les orphelins de guerre dont ils disposent, ils se heurtent vite à des problèmes de communication.
Vous pouvez prendre ces enfants-là?
Bah non, ça c'est les enfants du village.
Ils veulent aller à l'école.
Non, Suleiman, on peut pas s'occuper de tout le monde. Dis-lui qu'on est payé pour s'occuper des orphelins. On lui a dit la dernière fois qu'on est venu. On lui a dit. Alors, dis-lui, on peut pas s'occuper de tout le monde.
لا لا سليمان ما قلت لك بلا يال غورو الماسي
لا 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 كان ما نمغورس خليهم يمسوا
لا كيف كيس كي باس كيس كو تو لي
ا je lui ai dit qu'il recevrait pas d'argent tant qu'il y avait pas d'enfants.
Non mais Bintou, cet argent c'est pas pour acheter des enfants. Je paye ses services. C'est pas la même chose, donc qu'il y ait pas de confusion, on n'achète pas des enfants. Hein? C'est pour payer tes services, Suleiman. L'argent.
Gourous da. Malé bou foga yala. Lé ka filena salga ya khadumuma.
Suleiman, dans combien de temps on peut avoir des orphelins ici?
Dans 2 jours.
2 jours?
Oui.
2 jours.
Yomen.
Inch'Allah.
En vérité, Jacques Arnaud compte ramener les enfants en France, crée volontairement un incident diplomatique qui empêcherait le gouvernement de les renvoyer dans leur pays et les confie à des familles d'accueil ayant déjà payé le prix fort pour financer cette expédition. Malgré les problèmes de morale que cela présuppose, Jacques demeure convaincu du bien fondé de son projet. Mais les imprévus s'enchaînent, les bénévoles se désolidarisent un par un, la situation leur échappe peu à peu et l'argent, surtout, achève de dénaturer des relations déjà tendues avec leurs interlocuteurs locaux.
Mais moi, j'ai jamais donné mon accord pour un 300 places. Et d'ailleurs, la piste ne le permet pas.
Tu vois, je t'avais dit.
Quoi, la piste? Elle est impeccable, cette piste. On a loué un Boeing et il va atterrir ici. C'est tout.
Impossible.
Comment ça, impossible? Pourquoi?
Je suis désolé.
À 111 places?
Non, mais non. 111, Xavier.
C'est... Attends, j'essaie juste de trouver une solution, là. Les gamins, t'en as même pas 100. On a un 111 places?
Non, monsieur.
J'ai loué un Boeing 737 et c'est un 737 qui va atterrir ici. Voilà, je vous le dis, moi.
Jacques, ton 737, il peut atterrir. Le problème, c'est pour qu'il redécolle. Il doit faire demi-tour, là.
Ben oui, et où est le problème?
Ben, le problème, c'est que la raquette est pas assez large.
La raquette, ça s'agrandit. Enfin, je sais pas. Roland, toi, tu peux arranger ça?
Mais moi, ça va créer des problèmes, des dérangements, des retards.
Il y aura pas de retard, je m'occupe de tout.
Si on prend ça en charge, si on agrandit la raquette, ce Boeing, il peut atterrir ici, oui ou non?
Non.
Non, d'accord.
Et d'ailleurs, je n'ai même pas une échelle pour votre appareil.
Une échelle, je la construis, monsieur.
Monsieur, venez voir.
Joachim Lafosse, réalisateur belge, pardon, à qui l'on doit entre autres Élève libre et Nue propriété, a la faculté de transcender les faits divers les plus sordides en les utilisant comme matériaux de base pour ses films. Dans son précédent film À en perdre la raison, inspiré également de faits réels, il s'attachait à raconter les prémices d'un matricide, à en rechercher les racines et les causes. Ici, il traite à nouveau d'un événement aux retombées médiatiques importantes qui se double également d'une dimension politique puisqu'il est question au fond, des relations ambiguës entre France et Afrique. Dans Les Chevaliers Blancs, le réalisateur parvient, à travers une mise en scène tout en subtilité, à rester à l'orée du jugement, pour finalement donner au spectateur à réfléchir, à s'interroger sur ses limites et sur la morale. Joachim Lafosse excelle justement à trouver l'humanité chez ses personnages ambivalents, et surtout à la rendre palpable. Il parvient à faire exister la plupart des rôles du film avec très peu de dialogue, rendant le tout d'une justesse assez fascinante. Moi, je pense que vraiment avec ce film, enfin, il s'est imposé vraiment comme un très grand cinéaste. Vraiment, c'était déjà quelqu'un en fait que j'aimais beaucoup avant, dont j'aimais beaucoup le travail. Et là, moi, enfin, pour moi, vraiment, ce film, c'est le film de la consécration.
Et puis Vincent Lindon, Louise Bourgoin.
Moi, et qui sont tous très bons, voilà. Oui, ouais. Alors elle, c'est vrai qu'elle parle peu en fait dans le film, ah. Et elle est quand même très présente. Elle joue quand même très bien pour le peu qu'elle a joué en fait. Mmh. Voilà.
Bon, donc film recommandé, donc les Chevaliers Blancs, c'est ça.
Les Chevaliers Blancs de Joachim Lafosse, c'est déjà sorti depuis une semaine.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
On va regarder ça.
Le monde du Go Fast, ces convois qui partent d'Espagne pour aller jusqu'en région parisienne, eh bien on connaissait, hein, puisqu'on a vu le très bien nommé Go Fast avec Roche Dizem, infiltré dans un gang faisant venir de la résine de cannabis depuis le Maroc. Hein, une production Besson qui allait à l'essentiel, privilégiant le suspense et l'action. Alors ici, avec Le Convoi, eh bien c'est un même sujet, mais un projet bien différent. D'abord, au fil des films, Frédéric Schoendoerffer a tissé une œuvre autour de la chose criminelle, de Scène de crime, son premier long métrage, qui suit minutieusement une enquête de police, à Truand, qui fait le portrait du milieu du banditisme, ou encore à Agent secret, avec le duo Cassel-Bellucci. Ici, il ne s'agit pas seulement de montrer l'action, mais aussi d'infiltrer un milieu. En suivant un go-fast, Frédéric Schoendoerffer place sa caméra dans les voitures. Alors, elles sont quatre, ces voitures. Il y a trois duos et un solo. Il y a les ouvreurs qui n'ont pas de cargaison. Ce sont deux porteurs aussi dont les voitures sont chargées. Et puis un dernier, une dernière voiture, le protecteur qui ferme la marche pour voir éventuellement eh bien, si ce beau monde est suivi. Le dispositif est bien calé. Dans une première voiture, il place le petit chef et un débutant naïf. Dans une autre voiture, il place un bavard et un introverti. Dans une autre, deux frères dont l'un est une forte tête. Et puis dans celle qui ferme la marche, eh bien, un homme seul. Quasi le seul blanc du convoi, en tout cas le seul blond, Benoît Magimel, qui observe taiseux ce petit monde. On passe donc quasi 1h40 dans les bolides à vive allure, et on voit ce que vivent les uns et les autres. Ce qui intéressait Schoendoerffer était précisément les 12 heures que dure un go-fast, de Malaga à Créteil, où vont les personnages. Alors 12 heures c'est long, hein, d'autant qu'il n'y a pas toujours des surprises sur les autoroutes, mais faire 12 heures de film, eh bien, c'est très ennuyeux, donc il ne l'a pas fait. Une série, on aurait pu imaginer ça. Hein. On imagine la saison 1, Go Fast, Malaga, Creil. La saison 2, Marbella, Saint-Etienne. La saison 3, Gibraltar, Bruxelles. Voilà. Mais ça n'a pas été fait. Donc là, c'est un film qui dure 1h40. L'enjeu du convoi était donc de mêler action et description d'une tâche, le fameux convoi de drogue. Mais Schoendoerffer n'en oublie pas, et c'est ce qui déclenche l'enjeu dramatique du film, la valeur travail et ce qui en découle, donc des rapports d'argent. C'était le même procédé dans la série The Wire, hein, qui nous racontait le trafic de drogue à Baltimore. On voyait les dealers, les grossistes, tout ce beau monde bosser, et puis les rapports de force qui s'en dégageaient avec des exigences salariales, parfois, et puis des promotions.
On a un texto là.
Putain, on a un texto là!
Sors,
dégoûte!
Oh
putain! Oh putain!
Dumen, on a un problème ici. Hein.
Avance!
Ils sont blessés ou quoi?
Il y en a un qui est touché.
Ah ben la française?
Je lui ai dit qu'elle pourrait partir quand tu serais là.
T'aurais pas dû.
Mais la deuxième porteuse, elle est où? Tu devais t'arranger pour qu'elle arrive groupée.
C'est comme à l'armée, tu fermes ta gueule, tu poses pas de questions et tu fais ce qu'on te demande.
On va ramener tout le monde, frère, t'inquiète pas, d'accord?
J'ai jamais laissé personne sur route.
Alors, si le scénario apparaît d'emblée paresseux, un go-fast qui foire, eh bien la mise en scène, elle, tente d'instaurer une tension, un suspense, rythmé par les dialogues des uns et des autres rivés sur leur siège. Car on le précise, dans un go-fast, eh bien, le but du jeu est de ne jamais s'arrêter, sauf pour remplir son réservoir avec de l'adolescence qu'on emmène avec soi. Autonomie garantie. Alors, qui dit dialogue dit nécessité de prendre de bons acteurs. Paris réussit ici, à l'exception de Benoît Mégimel. Eh bien, les autres acteurs ont soit peu tourné, soit jamais tourné. Et prendre Tahar Rahim pour donner la réplique n'aurait abouti qu'à vider le film de sa facture réaliste. De ce point de vue-là, les acteurs, les duos fonctionnent plutôt bien. Et Mégimel est vraiment à part. Son rôle est caractérisé par son relatif silence. Il ne vient donc pas troubler le dispositif qui est plutôt habile, d'autant qu'un personnage extérieur à ce qu'on voit va aussi se greffer à l'intrigue. Alors, Schoendoerffer a disposé tout un tas de caméras autour de la voiture, filmant devant, sur les côtés et derrière. Hein, on n'est quand même pas dans un film de... On est, au contraire, dans un film de truand et pas dans la phénoménologie de l'autoroute. Là où le film pêche, peut-être, c'est dans l'exploitation d'un jaune surexposé pour la partie filmée en Espagne. Ce genre de jaune déjà vu dans Trafic de Soderbergh, qui lui aussi nous parlait de drogue. Voilà. Bon, sinon, Le Convoi n'est pas... forcément un grand film sur le sujet, mais s'impose davantage que le devenu trop classique Go Fast produit par Besson. Voilà, et c'est quand même à recommander, surtout si vous aimez les films d'action et haletants.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les deux acteurs de 45 ans, donc Charlotte Rampling et Tom Courtenay, ont déjà été récompensés du prix d'interprétation au Festival de Berlin. Et voilà que la comédienne anglaise file vers les Oscars pour peut-être recevoir un nouveau prix d'interprétation. Donc avec ce film d'Andrew Egg, explorant les incertitudes d'une relation à l'aube d'en fêter eh bien, la 45e année. De toute évidence, Kate et Geoff s'aiment depuis longtemps. Ils sont sur le point d'organiser une grande fiesta pour le montrer à tout le monde après 45 ans d'union. Mais pendant que ce moment eh bien, se prépare, Geoff reçoit une nouvelle aussi étrange que tragique. À la faveur du dérèglement climatique, mais ce n'est pas ça dont il est question, eh bien, le corps de Katia, son premier grand amour, disparu 50 ans auparavant dans un glacier suisse, eh bien, vient d'être retrouvé. Une nouvelle déstabilisante pour le couple. Alors déjà parce qu'un drame ressurgit, hein, une vieille histoire refait surface, et plonge Geoff dans la mélancolie, d'autant qu'il paraît obsédé par cette image, hein, celle du corps de celle qu'il a aimée il y a longtemps, conservée par la glace, soit un corps finalement de 27 ans.
Alors, super glauque.
Voilà, alors que lui en a 70, voilà. Et puis, ce qui déstabilise Geoff, c'est que si son amoureuse de l'époque a perdu la vie, eh bien lui a été propulsé dans une autre. L'apparition de ce corps donc le replace dans le passé et dans les possibles. Où serait-il allé s'il était revenu de cette escapade dans les Alpes finalement, hein, qu'est-ce qu'il aurait fait? Alors, plus il est perdu dans ses pensées en ayant de moins en moins de goût pour le présent et l'avenir, eh bien plus Kate est touchée par Ricochet. Mais n'ayant pas eu de moment aussi tragique, n'ayant que Geoff pour seul homme, pense-t-on, eh bien la voilà qui se met à questionner leur relation, la puissance des sentiments, le sens même d'un amour. Alors pourtant, elle l'avoue, avec un certain dédain, pourquoi aurait-elle à craindre une histoire d'amour qui s'est déroulée avant elle? Des questions, il y en aura. My true love was true. Oh, 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 sweet life. Alors ça c'est la musique des Platters qui les réunit parce que c'est leur musique. Peut-être que chacun, vous avez connu ça, dans une histoire amoureuse, il y a une chanson qui vous unit, et bien là, c'est les Platters. Alors, adaptant une nouvelle de David Constantine, In Another Country, le réalisateur Andrew Egg a fait le choix de déplacer le point de vue. Alors, contrairement au livre, ici, on est dans la tête de Kate, qu'interprète très justement Charlotte Rampling, et le questionnement sur la relation viendra d'elle, emporté par une sourde mélancolie. Et puis, les personnages sont aussi plus jeunes, hein, 70 ans au lieu de 80 dans le livre. Le propos est clair, la mise en scène est sobre et accompagne le jeu des acteurs qui sont plongés dans le quotidien, si ce n'était l'organisation de cette fête des 45 ans d'union. Et puis le film interroge pas uniquement la vieillesse ou les relations durables, mais toute relation intime finalement. On se déplace sur une frontière entre ce qu'on peut dire, ne pas dire, ressentir devant l'autre, interpréter. Le rythme de 45 ans est un peu comme les années qui passent au fil des saisons, hein, ça s'inscrit dans la durée quand même, c'est un film un peu lent, mais elle apparaît nécessaire, cette durée, pour le propos. Il ne s'agit pas pour le réalisateur d'exposer son sujet par la crise, mais de nous y installer. C'est un peu glaçant, pas forcément réconfortant, mais vraiment d'une belle précision, ce film 45 ans d'Andrew Egg, et qui sort le 27 janvier.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
2015 aura été une année jalonnée par des films très très attendus, probablement les plus attendus de l'histoire du cinéma, à savoir Mad Max, 50 nuances de gris, qui, quoi qu'on en pense, hein, a quand même provoqué un raz-de-marée, et bien sûr Star Wars 7, qui est désormais le film le plus rentable de l'histoire du cinéma. 2016 devrait quant à elle être une année record en termes de suites, de remakes, d'adaptations de jeux vidéo, de reboots et de prequels. C'est bien simple, même le cinéma français s'y met. Outre les suites des Tuches et de Joséphine, avec la fille de Josiane Balasco, Marie-Lou Berry, Éric et Ramzy nous proposeront 15 ans plus tard un préquel de la Tour Montparnasse Infernale, intitulé La Tour de Contrôle Infernale, à découvrir ou pas le 10 février, on vous en parlera prochainement. Quelques films un peu plus excitants en revanche nous arrivent d'outre-Atlantique, à commencer par The Revenant, le nouveau film de Iñárritu, un retour rapide après le très remarqué Birdman qui avait marqué les Oscars déjà de l'an passé.
On y arrivera qu'en se frayant une nouvelle piste par la rive.
Pour faire quoi? Pour s'exposer comme de vulgaires proies? Pour que ton sang mêlé de fils et toi puissiez vous en sortir?
Je te parle.
Ce western, pardon, qui se déroule comme les 8 salopards de Tarantino dans les grands espaces neigeux du nord des États-Unis, devrait à nouveau permettre à son auteur de se distinguer aux prochains Oscars, puisqu'il est cette année en lice avec 12 nominations. On en dit déjà que c'est un choc, une expérience, un voyage, une extase, rien que ça. Bon, on a dit exactement pareil pour Gravity ou pour Interstellar auparavant, hein, mais ce n'est pas grave, l'emphase fait vendre. Alors, c'était un rôle dur pour DiCaprio, qui joue le rôle principal, qui s'est laissé pousser la barbe plus que jamais pour le film. Un Oscar, donc peut-être à la clé pour le comédien qui n'en a jamais reçu en 30 ans de carrière. Il partage l'affiche de The Revenant avec Tom Hardy, lui aussi nominé au meilleur second rôle. Et si vous aimez Tom Hardy, eh bien sachez que dans Legend, dont je vous parlerai la semaine prochaine, vous aurez droit non pas à un Tom Hardy, mais à deux Tom Hardy, puisqu'il y interprète deux jumeaux mafieux. Autre film très attendu qui, pour le coup, n'est même pas encore sorti aux États-Unis, Suicide Squad de David Ayer.
Ça n'a pas été sans mal, mais je les tiens enfin. Les pires racailles qui soient.
Où sont-ils?
Disons que je les ai flanqués dans un trou et que j'ai jeté le trou.
Amanda, selon la rumeur, certains d'entre eux auraient des aptitudes.
Ça, oui. J'en ai vu des choses. Peut-être que Superman a été une sorte de flambeau qui les a fait sortir à quatre pattes des ténèbres. Je veux réunir les individus les plus dangereux de la planète dans une unité d'intervention. Je crois qu'ils pourraient être utiles.
Ce sont bien des méchants.
Oui, c'est exact. Ainsi, si ça tourne mal, on leur fait porter le chapeau. On a un démenti tout trouvé.
Qu'est-ce qui vous fait croire que vous les contrôlerez?
C'est mon métier de faire en sorte que les gens aillent contre leur intérêt.
Quoi?
Non, je vais pas te tuer. Je vais juste te faire mal. Super. Super. Mal.
Alors, Suicide Squad, c'est l'antifilm de super-héros, un film de super-vilain, comme on dit, c'est le terme, et c'est la nouvelle mode, dans lequel on pourra admirer, eh bien, entre autres, la prestation de Jared Leto en Joker, qu'on a entendu en dernier dans la bande-annonce. Dans son précédent film, Dallas Buyers Club, il interprétait un travesti sidaïque. Cette fois, il succède à Heath Ledger dans le rôle du plus célèbre schizophrène de Gotham City. Le tournage aurait été si difficile, hein, que les différents interprètes ont dû être suivis par un psy pour éviter de devenir complètement fou. Bon, je vous l'accorde, hein, ça sent à plein nez la vieille légende urbaine inventée par les studios pour la promo du film. Passons à autre chose pour finir. Une autre adaptation très attendue qui, pour le coup, aura sans doute été moins traumatisante pour ses interprètes, Le Livre de la Jungle de Jon Favreau, une nouvelle version en motion capture du livre de Rudyard Kipling, dont les premières images laissent imaginer un spectacle visuel dans la lignée de l'Odyssée de Pi.
Que fais-tu au fin fond de la jungle ? Tu ne sais donc pas ce que tu es? Moi, je le sais. Et je sais d'où tu viens. Pauvre petit trésor. Je te suivrai à la trace. Libère-toi de ta peur à présent.
Voilà. Voilà donc le livre de la jungle de Jon Favreau à qui l'on devait auparavant Iron Man, hein, donc qui part sur un tout autre registre, avec entre autres les voix de Scarlett Johansson. Voilà, il y a pas mal de célèbres acteurs américains qui prêtent leur voix aux différents animaux, du livre de la jungle. Et donc ça, ça arrive ces prochains mois.
Le 13 avril.
Le 13 avril, merci Vincent. Voilà, c'était un petit tour d'horizon des différentes sorties de 2016.
Eh bien, merci Marine, et ainsi s'achève Cinérama.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
La semaine prochaine, nous aurons deux interviews, nous serons trois dans l'équipe à nouveau. Il y aura Roche Dizem pour le film Chocolat, et puis nous parlerons des Tuches 2 avec Olivier Barou de Cadet Olivier, et puis Jean-Paul Rouve.
Oui, et moi je vous parlerai également entre autres de Legend avec Tom Hardy. À la semaine prochaine.
Cinérama. Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien des combines et de la merde. Y a pas de saint, y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.